Je crois que nous sommes encore dans Bereshit, au chapitre Yudret, au verset Aleph. Donc on s'était posé la question de, c'est quoi ce Vayera Elav Hashem? À qui Hashem s'est-il révélé? Alors on avait dit qu'il s'était révélé à lui. D'accord? À un certain lui. Beloné Mamre Vehu, et lui, Yosheb Petachol Kichom Mayom. Il était installé à l'ouverture de la tente lors de la chaleur du jour. Il leva les yeux et il vit trois hommes qui étaient debout auprès de lui. Il vit et il court à leur rencontre depuis l'ouverture de la tente. Et il se prosterna au sol. Il dit, Adonai imna matzatichen be'enecha natavor me'alavdecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas près de ton serviteur, etc. Et donc, on voit que dans tous les cinq premiers versets de la paracha, on ne sait pas à qui la révélation se fait. Mais, après au verset Vav, Vayemaher Avraham. Avraham s'empressa. Ha'oela el Sarah, vers la tente chez Sarah, et il lui dit de préparer le repas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a ici une révélation, et dans laquelle, si on suppose que c'est Abraham qui est le sujet de la révélation, Abraham est englouti dans la vision. C'est-à-dire, il est annihilé par ce qu'il voit. À tel point même qu'il est en dehors du coup. À tel point même que le Zohar peut nous dire que lorsque qui étaient les trois hommes qu'il a vus, d'après le Zohar, c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement intemporel, c'est en dehors du temps ce qui se passe là. Maintenant, est-ce que nous avons un phénomène qui ressemble à ça? Alors oui, dans le livre de Vayikra, dans la paracha de Aharemot. Vous connaissez la paracha d'Aharemot? À Kippour, on lit dans la paracha d'Aharemot tout le service de Yom Kippour avec le grand prêtre qui rentre dans le Beth Amikdash, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim et qui en ressort, n'est-ce pas? Et il envoie également le bouc émissaire. Eh bien, comment est-ce que c'est raconté dans la Torah? Alors là, je vais lire à nouveau, j'avais ici le livre de Vayikra, attendez, il n'y a pas un Tanakh ici, plutôt que ça soit plus simple. Ah, voilà, bon, d'accord, on va prendre Vayikra. Voilà, bon. Alors, je vais devoir remettre le micro. Ça marche, Anthony? Ouais. Bon, d'accord, bon, alors, dans le livre de Vayikra, dans la paracha de Aharemot, Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu s'adressa à Moshe, Aharemot Shene Bene Aaron. Après la mort des deux fils d'Aaron, Bekorvatam, Ifne Hashem Vayamutu, qui, lorsqu'ils s'étaient approchés de Dieu, sont morts. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Daber el Aaron Achicha, parle à Aaron, ton frère. Ve'al yavo bechol et la kodesh imbet la parochet, et pene akaporet asher al Aaron velo yamut. Qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le lieu saint, au-delà du rideau, face au propriétaire qui est sur l'arche, pour qu'ils ne meurent pas. Ki be'anan era'a la kaporet, car c'est dans la nuée que j'apparaîtrai sur le propriétaire. Bezot yavo Aharon, et c'est comme ça que Aharon viendra. Et la kodesh dans le lieu saint, befar ben bakar ve'il le'ola. Et après, la Torah nous dit comment est-ce que Aaron doit s'habiller et qu'il doit prendre deux boucs, etc. Verset Vav. Veikriv Aaron et parachatat asherlo. Et Aaron sacrifiera le taureau expiatoire qui lui appartient. Vechiper ba'ado ve'ad beto. Et puis après, la Torah nous dit Velakach et Chene Asirim, il prendra les deux boucs. Et quand il amène son taureau, la Torah dit, il s'appelle Aaron. Quand il amène les deux boucs, il s'appelle il. Ve'imidotam lifne Hashem petach ha'el moed, il les mettra devant Dieu à l'ouverture de la tente d'assignation. Venatan Aharon al shene asirim goralot. Et Aharon mettra sur les deux boucs des sorts. Et après, la Torah dit, Veikriv Aharon et Asaïr. Aharon sacrifiera le bouc. Et puis après, je saute deux versets, Veikriv Aharon et Parachatat Asherlo. Et Aharon sacrifiera le taureau expiatoire. Donc pour l'instant, il s'appelle comment?
Aharon.
C'est très bien. Puis, Velakar melo amarta gachale esh me'al amizbeach milifnei Hashem ulo chofnaf kudoret saim daka ve'evi mibet la kaporet. Et il prendra la pelle qu'il remplira de braise du feu qui est sur l'autel devant Dieu et la plein de ses mains d'encens pilé fin et il l'introduira au-delà du rideau. C'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Là, il s'appelle comment?
Il.
Venatan et Aketoret à la Hesh, Ifne Hashem, il donnera, il mettra l'encens sur le feu devant Dieu. Vechissa, Anan, Aketoret et Akaporet, Asher, Laïdouz, Vele Hamout. Et bref, il y a toutes les opérations qu'il doit faire dans le Kodesh HaKodashim. Et pendant tous les versets en question, il y en a pas mal, son nom n'apparaît pas. D'accord? Mais, après, quand il finit tout ça et qu'il sort du Kodesh HaKodashim, 8 versets plus loin, la Torah dit « Vesamach Aharon et Chete Yadav al Rosh HaSahir » et Aharon posera ses deux mains sur la tête du bouc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il entre dans le Kodesh HaKodashim, il ne s'appelle plus Aharon, il s'appelle lui. Quoi?
Oui,
bien sûr. Maintenant, je vais plus loin. Dans la description de ce qui se passe quand il entre dans le Kodesh Kodashim, la Torah rajoute un verset absurde. Je vais vous lire le verset absurde. Hein?
C'est parti.
Parti, merci. Vechol Adam lo ye boel moed, il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation. Bevo'o lechaper ba Kodesh atzeto, lorsqu'il rentrera pour expier dans le lieu saint jusqu'à ce qu'il sorte. Et il expira pour lui-même, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Pourquoi ce verset est absurde? Le verset nous dit, il n'y aura aucun homme lorsqu'il y sera. Ah bon? C'est ridicule. Il y en a au moins un. Hein? Il n'y est pas. C'est-à-dire, lorsqu'il entre dans le Kodesh, il n'est pas là-bas. C'est-à-dire, il n'y a aucun homme, ni même lui. C'est-à-dire qu'il est entièrement annihilé par rapport à l'événement. Il devient une partie du mobilier du Kodesh HaKodashim. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Peut-être juste, ça veut dire que, à part lui, il n'y aura personne d'autre.
À part lui, ça c'est trop facile. C'est parce que, la Torah dit pas ça. La Torah dit qu'il n'y aura aucun homme là-bas. C'est-à-dire lui-même. Quand il y sera, il n'y aura aucun homme. C'est pas vrai. S'il y sera, donc il y a un homme, il y a lui. À moins que lui cesse d'être un homme à ce moment-là. C'est-à-dire que nous avons le même phénomène quand il y a une rencontre avec la sainteté originelle, la sainteté absolue, il y a disparition de l'identité individuelle. Ce qui ressemble un peu à ce que disent les bouddhistes. C'est-à-dire que l'ascension spirituelle, c'est l'absence de l'illusion du moi. D'accord? C'est-à-dire que pour les bouddhistes, le moi est une illusion, et quand il disparaît, eh bien, c'est là qu'on arrive à la connaissance véritable. D'accord? C'est ce que dit. Mais donc, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'on est entièrement englouti. Maintenant, j'aimerais comprendre ça jusqu'au bout. Pourquoi ça se passe à ce moment-là où Abraham fait la circoncision? Alors, vous vous rappelez qu'il y a un verset, si je reviens ici au verset Aleph, « Vaïra Elav Hashem » et Dieu s'est apparu à lui. D'accord? La Torah raconte cette histoire une deuxième fois dans le livre de Shemot. Hein? Dans Vaïra. Qu'est-ce qu'elle raconte la Torah dans le livre de Shemot? Dieu dit à Moshe, tu sais, je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vaera et l'Avraham et Yitzhak et Yaakov. Donc, Ushmi Hashem Nodati Lahem. Donc, quand la Torah dit Vaera, c'est qu'elle se rapporte au Vaera. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Vous avez compris ce que je dis là? Non. Je reprends. Le verset, j'ai vu que tu es en plein dans... La Torah nous dit ici, Vaera Elav Hashem. Est-ce que ça tu sais? Bon, très bien. Eh bien, ça s'est passé lorsque Dieu apparaît à celui qui, en principe, devrait être Abraham. D'accord? Ce récit est raconté une autre fois dans la Torah, dans le livre de Shemot. Jusque-là, tu suis? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre de Shemot? Dieu dit à Moshe, je suis apparu à Abraham. Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov. Je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc, cette histoire est racontée deux fois dans la Torah. Jusque-là, ça va? Voilà. Bon. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, mais là, tu rêvais. Bon. Donc. Hein? Dans Devarim, non, c'est pas écrit. C'est écrit dans Shemot. C'est pas grave. Bon. Maintenant, que dit la Torah là-bas? Vaera el Abraham, el Yitzhak, vel Yaakov, vel Shaddai. Je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. Petite question. Qui sont, d'après vos connaissances générales, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov?
Les Avot.
Les Avot. N'est-ce pas? C'est très bien. La réponse est précise. Maintenant, qu'est-ce que dit Rachid sur Vaera? Non, dans Vaera, dans le livre de Shemot, Rachid dit Vaera el Ha'avot. Je suis apparu au Avot. Rachid, absolument génial. C'est comme si on ne savait pas qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était les Avot. Et donc, Rachid rajoute Vaera, je suis apparu el Ha'avot, au Avot.
C'est grâce à ça qu'on a su qu'on les appelait les Avot.
Ah oui, parce que Rachid dit qu'il s'appelle les Avot, donc on sait qu'il s'appelle les Avot.
C'est la différenciation dans la fila, selon moi. Comme quand on avait vu que Abraham, Yitzhak et Yaakov, et après on a dit Avot. C'est une différence.
Vachement convaincant ce que tu viens de dire.
Ah, c'était plus la différence.
Oui, mais j'ai pas compris en quoi ça répond à ma question. Rachid nous dit Vaera. Alors, la Torah dit Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Rachid nous dit Ha'avot. Oui. Hein? Et quoi, il y a? Deux, trois votes, oui. Quoi?
Peut-être que, enfin, je prends l'exemple d'Abraham, par exemple, je ne sais pas vraiment pour les deux autres. Abraham, pendant les 75 premières années de sa vie, il était en recherche.
Mais alors?
Il n'avait peut-être pas le statut de Havot à ce moment-là. Il est apparu quand ils ont atteint la santé nécessaire.
Quand ils sont arrivés au niveau de Havot, intéressant. Ça va se relier à notre histoire, oui.
Havot, c'est une unité. Oui. Avec
Elab, les trois à la fois. Oui, ça oui, ça, j'accepte aussi, oui.
La manière dont Dieu a parlé à Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle est différente.
Oui, mais il dit à Avot. Rachid, il explique qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, il dit c'est les Avot. Il ne
faut pas qu'on comprenne que Dieu a parlé à Abraham, Yitzhak et Yaakov,
Pourquoi pas il aurait. Ben, c'est ce qu'il dit pourtant, qu'il est apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, c'est-à-dire, c'est en tant que Avot qu'il est apparu à eux. Intéressant, oui.
Il dit que, à partir du moment où ils ont atteint le statut de Avot, alors là, El Shaddai, particulièrement, il peut se dévoiler.
Bon, alors, écoutez, d'abord, il faut bien comprendre un grand principe quand Rachid, deux choses. Quand Rachid dit quelque chose d'extrêmement banal, c'est que c'est extrêmement profond. Deuxièmement, pour comprendre Rachid, ça c'est un principe du Rabbi de Lubavitch, c'est de demander Ma caché les Rashi. Qu'est-ce qui est difficile que Rashi vient élucider? Il y a une difficulté à laquelle Rashi répond. D'accord? Et donc, quelle est la difficulté à laquelle Rashi répond? C'est ça qui se pose. Et la difficulté de Rashi, c'est le mot Vaera.
Parce que c'est au singulier?
Non. Parce que ça contredit un verset très clair dans la Torah, Lo ir ani ha'adam v'chai. L'homme ne peut pas me voir de son vivant. Or, la Torah dit, je me suis fait voir.
C'est au nom d'un autre aspect, c'est Shaddai.
Peu importe. Rashi ne dit pas que le problème c'est El Shaddai. Rashi dit que le problème c'est Vaera. Et la réponse de Rashi est la Avot. C'est parce qu'ils étaient des Avot que j'ai pu leur apparaître. En quoi ça répond à la question? Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que être des avot. Il y a un principe, il y a un terme qu'on emploie, le zechut avot, le mérite des avot. Alors d'habitude on dit le mérite que les avot nous donnent. Mais le véritable sens de Zerut Avot, c'est-à-dire le mérite qu'ils avaient, eux, d'avoir accepté d'être des Avot. Ça veut dire quoi, accepter d'être des Avot? Av, ça veut dire quoi? Un père. Quel est le pendant de Av? Ben, le fils. Ouais. D'accord? Il y a des pères, il y a des fils. Hein? De la dot, oui, effectivement, ça aussi. Bon, en tout cas, la Torah est donnée à qui? Au Avot ou au fils? Comment vous savez? La Torah dit d'abord elle, béné Israël. Donc, Avot, c'est accepter de vivre pour une destinée qui ne se manifestera que chez les enfants et pas chez soi. Vous avez compris? C'est ça la grandeur des Avot. Ils ont accepté d'être des Avot et pas des fils. De vivre pour une promesse qui ne se réalisera pas de leur vivant. Maintenant, vivre en fonction d'une promesse qui ne se réalisera pas de son vivant, c'est une vie, ça? Non. Donc, ils n'ont pas vécu. Donc, le problème de l'Oirani Adam Vachai ne se pose pas pour eux. Vous avez compris? C'est-à-dire, quoi? Ben oui, l'homme ne peut pas me voir de son vivant, mais ils n'étaient pas vivants. Non, ils n'étaient pas vivants. Ils étaient vivants biologiquement. Mais comme on a vu ici, on a vu Vaïra Elav, il est apparu à lui. Il n'y a pas d'Abraham ici. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité d'être vu par les Avot, c'est parce qu'ils étaient des Avot. D'accord? Oui.
Vous savez, dans les marins, on a plusieurs choses qui se trouvent comme un état de mort, un état de vie. Est-ce que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que...
C'est pas la mort, c'est au-dessus de la vie.
Mais c'est que dans les marins que le fait de vivre pour quelque chose...
Non, mais c'est ça, vous le savez tout seul. D'accord? Maintenant, donc, Vaera et la Avot. Maintenant, comment est-ce que Rashi explique ça? Grâce au mot Be'el Shaddai. Qu'est-ce que dit Rashi sur Be'el Shaddai? Iftarti maftachot, uvechula mamarti ani El Shaddai. Je leur ai fait des promesses, et dans toutes les promesses, je leur ai dit, je suis El Shaddai. Ça veut dire qu'ils étaient des Avot parce qu'ils ont vécu pour des promesses. Vous avez compris? C'est-à-dire, en fait, puisqu'ils ont vécu pour une promesse, vous savez, dans politique, quand on fait des promesses électorales, on ne les tient pas. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça que dit Akadosh Baruch Hu. Ils ont vécu pour ma promesse, mais ils n'ont pas vécu la réalisation. Or, le Dieu qui réalise s'appelle Hachem, Yudke Vavke. Et donc, c'est comme ça que Rashi dit, Vaera el Avram Yitzhak ve'el Yaakov, Ushmi Hachem, mais mon vrai nom, c'est Hachem. Conclusion, l'onodati lahem, je n'ai pas été connu. D'accord? Comme ça qu'il faut comprendre Rashi. Ben, la promesse de, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah là-bas? Bel Shaddai, vegam, vaira el avram sagrako bel Shaddai, vegam akimoti et biriti itam, or j'ai l'intention d'accomplir mon alliance avec eux, la tête lahem et teretz Kenan, de leur donner le pays de Kenan. C'est-à-dire que la promesse, c'est la promesse d'avoir une descendance qui va prendre possession du pays de Canaan.
La promesse, c'est pas avec lui.
Justement, la promesse, c'est avec les Avot. Il a promis aux Avot que leurs enfants hériteraient de la terre d'Israël. Donc, ils ont accepté de ne pas prendre possession de la terre, seulement leurs enfants. Donc, ce sont des Avot. Et donc, le problème, et donc, ils ne vivent pas. Ils sont au-dessus de la vie. C'est la raison pour laquelle la Torah ne dit pas leur nom. Oui. Non, ils ont pérégriné. Quoi, les deux endroits, Shrem et Hebron, c'est ça? Oui. Quoi, ils ont vécu ici, mais ils n'ont pas pris possession de la terre. Ils étaient étrangers. C'est pour ça qu'on dit Eretz Megurehem, Asher Garuba, le pays de leur pérégrination où ils ont été étrangers. Garuba, ça vient du verbe guerre. D'accord? Et seulement leurs fils ont fait la guerre, justement, pour ne plus être des guerres. Voilà, ce qui est une vanne. Oui?
Mais du coup, ceux qu'ils ont vécu avant les Israélites.
Exactement. Ça veut donc dire qu'au long de l'histoire, tu as très bien compris, il y a des générations de Avot, il y a des générations de Banim. C'est-à-dire, à chaque fois que dans l'histoire, nous avons pris la possession de la terre d'Israël, nous étions donc des Banim, laisse-le tranquille, et quand, à chaque fois que nous sommes partis en exil et que nous avions l'espoir de la délivrance, nous étions des Avot. C'est-à-dire, nous avons des générations de Avot et des générations de Banim. Nos arrière-grands-parents étaient des Avot et nous sommes des Banim.
Il n'y aura plus d'une
génération d'Avot. Nahon, c'est fini. Voilà, oui.
Et Moshe ?
Alors, Moshe, justement, c'est un statut intermédiaire parce qu'il a fait la moitié du travail. Il nous a fait sortir d'Égypte, il n'est pas rentré en Eretz Israël.
Et pourtant, Hachem, il lui est apparu ?
Non. Il lui dit, l'Oirani Adabacha, et quand il demande à Renina et Goudra, c'est dans le parachat de la semaine. C'est Moshe qui demande à Akajoukou. Je veux te voir, et Dieu lui dit, Lo irani adam vachai, tu ne pourras pas.
Alors, Moshe, il a jamais, Hachem, il n'est jamais apparu à Moshe. Comment on dit que Moshe, il a vu Zaroumane, il était filé d'Hachem, etc., tout ce truc-là.
C'est par derrière. Panaï lo iraou, veraïta tachorai, panaï lo iraou, tu verras par arrière, tu verras pas devant. Et donc, il a vu la moitié, parce qu'il a fait la moitié du travail. Oui.
Mais ouais,
oui, quoi encore? Oui. Ils s'attendaient à recevoir la terre. Ils n'ont pas reçu. C'est ça la catastrophe. C'est-à-dire que la Torah est le récit d'un échec. La Torah est le récit d'un échec. C'est terrible. Parce que qui s'est écrit dans la Torah? Dieu a créé le monde pour créer l'homme, pour créer des nations, pour créer Israël qui sort d'Égypte et qui rentre en Eretz Israël. Et puis ça s'achève où? Paf, ça marche pas. Il s'arrête à l'entrée des restes Israël et Moshe ne rentre pas. C'est, en fait, l'histoire de la Torah est tragique. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé, mais on n'a pas fini.
Toutes les histoires de la Torah sont des échecs.
Oui. Oui, mais attention. Non, ça veut dire qu'il y a un développement, une ascension à travers les échecs. C'est-à-dire qu'il y a une série d'échecs qui font que finalement, ça marche. Mais ça passe par des échecs. D'accord? C'est comme un jeu.
Un jeu d'échecs.
Ah, très bien. Voilà, oui, je l'attendais celle-là. Oui?
Mais donc, là, c'est qu'on a dit que le Kévafke, c'est celui qui réalisait
la première. Nahon.
Il n'a pas réalisé la première.
Il a, si, il
là, aujourd'hui, mais la,
oui, ça a pris 4000 ans.
Ils ont quand même pas vécu, ils ont pas vécu la.
Ils ont pas vécu la réalisation.
Ils ont juste vécu la
première. Exactement. Non, ils ont pas connu.
Si.
L'onodat ilahem, si. Ah, pour les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Oui, parce que ça aurait dû marcher. Ça aurait dû, c'est ça la gravité de la faute des explorateurs. C'est que ça aurait dû marcher. Oui.
Et donc, pourquoi à l'heure actuelle, on dit que c'est que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Noah, Lot, qu'en soi, c'est tous ceux qui ne sont pas en train de tirer?
C'est la même identité, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des trois temples est la concrétisation d'une promesse faite à un des Avot. C'est-à-dire, le Bayit Rishon, c'est la concrétisation de la promesse à Avraham, Bayit Sheni, celle à Yitzhak, et la troisième, celle à Yaakov. C'est la raison pour laquelle la prière de Harvit est facultative. Parce qu'on n'a pas encore réalisé Yaakov. Ouais. Bon, on peut continuer?
Bon, et quoi? C'est quoi on se base genre, pour dire. C'est quoi la promesse de. C'est quoi la différence entre les différentes promesses? Quelle celle de Yaakov sera éternelle?
Alors, ça, il faut étudier le Maharal de Prague dans le cinquième chapitre de Derech Haïm, dans lequel il explique très longuement cette histoire. D'accord? On ne peut pas le faire maintenant. Voilà, d'accord. Je ne peux pas tout faire à la fois. Bon, donc, Vayera et Lav Hashem. Donc, je reviens ici à l'histoire de Vayera et Lav Hashem. Béloné, Mamré, dans les plaines de Mamré. Qui est Mamré? Hein? Mamré avec un Hé. Et là, c'est Mamré avec un Aleph. Ouais. Qui c'est Mamré? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, tu peux me la dire? Si c'est pour me la dire, tu peux la dire à moi.
Non, c'est
pas. Ah, d'accord, très bien. Oh, j'adore. Mais qui est Mamré? Vous vous rappelez pas? Ben, quand Avraham part en guerre, hein, regardez au chapitre Yud Dalet, hein, au chapitre, au chapitre Yud Dalet, au verset. Au verset Yud Gimel. Vayavo Hapalit, Vayaged le Avraham Aivri. Le fuyard arriva pour raconter à Abraham l'hébreu. Veu Shochen, et il était installé. Béloné Mamré, dans les plaines de Mamré, à Emori, les Moréens. Achi Eshkol va Achi Aner, frère d'Eshkol et frère d'Aner. Vembaalé Berit Avram, qui étaient les alliés d'Avram. Donc, qui c'est Aner, Eshkol et Mamré?
Les Amoréens.
Les Amoréens, qu'est-ce qu'ils sont pour Avram? Donc, les alliés d'Avram. Donc, Mamré est un ami d'Avram, et Avram est installé dans la plaine de Mamré. Jusque-là, ça va? Alors, vous vous rendez compte l'ampleur du phénomène? Il y a une révélation du tonnerre de Dieu à Avram, et on nous dit que c'était dans la plaine de Mamré. C'est un mérite énorme qu'a eu Mamré d'être mentionné à propos de la révélation à Avram. Quel était le mérite de Mamré? Alors regardez Rashi. Béloné Mamré. Qu'est-ce que dit Rashi sur Bé? Qu'est-ce que dit Rashi sur Béloné Mamré?
Il faut lire Rashi pour ça.
Ben oui, ben je lis Rashi. Hu shenatan lo etza al amila. C'est lui qui lui a donné un conseil pour la circoncision. Lefichach nigla elav bechelko. C'est pour ça qu'il lui est apparu dans son territoire. C'est-à-dire que Mamré, gigantesque personnage, c'est lui qui recommande à Abraham de faire la circoncision. Ah bon? Moi j'ai toujours cru que c'était Dieu qui avait dit à Abraham de faire la circoncision. Et ça, le conseil. Il a donné un conseil pour la circoncision. Alors comment la faire? Ça veut dire qu'il aurait été médecin, par exemple. Oui. Et alors, ça a beaucoup troublé les commentateurs, cette histoire de Rashi, là. Enfin, il dit au nom du Midrash. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, Dieu dit à Abraham, fais la circoncision. Abraham dit, je demande conseil à Mamré. C'est incroyable. Il noue un truc pareil. Mamré l'aurait fait, et alors? Conseil, mais quoi? Qu'est-ce qu'il veut savoir? S'il faut la faire ou pas? Dieu lui a dit de faire, il fait. Ouais, comment on fait? Ouais. En tout cas, vous avez 6 réponses différentes amenées dans le Sifte Chachamim.
C'est quoi ce livre?
C'est un livre qui est un commentaire de Rashi. Il commente Rashi, le Sifte Chachamim. Il amène 6 réponses différentes au nom de différents commentateurs. Aucune des réponses n'est satisfaisante. La bonne réponse, c'est celle que je vais vous donner, c'est que Mamré est le premier à avoir eu l'idée de faire la circoncision. Il en a parlé à Abraham. À partir du moment où Abraham a été convaincu que c'était une bonne idée, Dieu lui a dit « fais-la ». C'est-à-dire, c'est pas venu après le commandement, c'est venu avant le commandement. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que pour qu'il y ait des mitzvot dans le monde, il faut qu'il y ait une prédisposition à les faire. C'est pour ça qu'il y a une évolution de la civilisation humaine qui fait qu'à un moment ou à un autre, il y a une révélation qui vient confirmer ce que la civilisation antérieure, ce qu'on appelle le Derech Eretz Kadma la Torah, avait déjà élaboré. D'accord? Je ne sais pas si vous savez, on a découvert dans les fouilles archéologiques, au début du XXe siècle, on a découvert une stèle en Irak, à Babylone, qui s'appelle le code de Hammurabi. Vous connaissez le code de Hammurabi? C'est un code très ancien, écrit par un roi qui s'appelait Hammurabi, un contemporain d'Abraham, un peu probablement, et dans lequel vous avez toute une série de lois. C'était les lois qui étaient en vigueur au Proche-Orient dans l'Antiquité, et qu'Abraham suivait probablement aussi. Et dans ces lois, il y a des tas d'expressions qui nous rappellent des passages de la Torah, tels que par exemple œil pour œil, dent pour dent, ou bien lorsqu'un taureau encorne le taureau de son prochain, qui garche sur l'oreille. Tout ça c'est écrit là-bas. Et ça a beaucoup troublé les gens. Il y avait un chercheur du nom de Delitzsch qui a écrit un livre en allemand, Bibel und Babel, dans lequel il a affirmé que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est une version dérivée de la tradition babylonienne. Entre autres les lois de Hammurabi, également l'épopée de Gilgamesh, dans laquelle on raconte l'histoire du déluge, et tant d'autres choses. D'accord? Alors, ça a beaucoup troublé les esprits à l'époque. Et le Rav Kook parle de ça dans son livre Eder Haïkar. C'est un livre qu'il a écrit à la mémoire de son beau-père, le Rav Eliyahu David Rabinovitch Teomim, et dans lequel il parle à un endroit des lois de Hammurabi. Il dit, mais il n'y a aucun problème, nous savons tous qu'il y avait des sages et même des prophètes avant que la Torah soit donnée. Il est absolument impensable qu'il n'ait pas influencé leur génération. Il est évident que ce qu'ils ont enseigné doit être proche de ce qu'a enseigné la Torah. Donc tout ce que la Torah a trouvé au moment de son apparition, qui avait déjà été élaboré par l'humanité et qu'il était capable de transformer en bien, la Torah ne l'a pas aboli. Exemple de cela, je vais vous donner un exemple amené par le Ramban. C'est le Lévira. Le Lévira, le Yiboum. En hébreu, on dit Yiboum. En français, on dit le Lévira. Hein?
La
Khalitsa, c'est le déchaussement. C'est pas ça le Yiboum, c'est le contraire, justement.
Oui, non, je veux dire, mais c'est lié, quoi. C'est...
Le Yiboum. D'accord? Bon. Alors, le Yiboum, c'est une loi ancienne, qui est mentionnée dans la Torah, dans le livre de Devarim, comme quoi, lorsqu'une femme perd son mari et qu'elle n'a pas d'enfant, que le mari n'a pas d'enfant, alors elle est épousée par le frère du défunt, n'est-ce pas? Ça s'appelle le Yiboum. C'est mentionné pour la première fois dans la Torah elle-même, dans l'histoire de Yehuda. Quand Yehuda voit que son fils Er est mort et qu'il reste une femme, il dit au frère du défunt, à son deuxième fils, il faut que tu fasses le Yiboum. Finalement, le deuxième fils aussi meurt sans enfant et il a peur de donner son troisième fils à cette femme qu'il pense être mortifère. D'accord? Elle s'appelle Tamar. D'accord? Ça fait beaucoup de bruit parce qu'elle avait un drôle de teint Tamar. Et donc, finalement, Yehuda fait traîner les choses. Alors, Tamar séduit Yehuda, qui la met enceinte et qui lui donne deux jumeaux. N'est-ce pas? Bon. Alors, cette loi, donc, on voit qu'elle existait déjà, bien avant que la Torah soit donnée, qu'elle était en usage chez nos ancêtres. Maintenant, qu'est-ce que la Torah a fait de cette loi? Elle a introduit deux réformes. Tout d'abord, que le Yiboum ne peut être pratiqué que par le frère du défunt, alors qu'auparavant, ça se faisait par n'importe lequel des proches, puisque Yehuda, qui n'est pas le frère du défunt, c'est lui finalement qui va faire le Yiboum contre son gré. D'accord? Donc la Torah a annulé cette clause. Elle ne permet le Yiboum qu'aux frères. Deuxièmement, la Torah a rajouté autre chose, c'est qu'on peut se débarrasser du Yiboum par la cérémonie du déchaussement, la Khalitsa. Ce qui n'était pas le cas au temps de Yehuda. C'est-à-dire, si Yehuda ne voulait pas que Shéla, son troisième fils, épouse Tamar, si la cérémonie de la Khalitsa avait existé, il l'aurait fait. Donc, en fait, la Torah a repris une idée ancienne, elle l'a améliorée. D'accord? Et c'est vrai pour beaucoup de mitzvot. On peut voir de plus d'un point de vue que nos ancêtres accomplissaient, bien avant que la Torah soit donnée, une grande partie des mitzvot, et que la Torah les a transformés, les a fait évoluer. Oui, quoi?
Que
quoi?
Selon un de Rabbanim, en gros, la Torah, c'est, au final, le don de la Torah, c'est un échec. On n'était pas censé recevoir, on ne devait pas recevoir la Torah. La véritable
et alors
expression de notre vie par rapport à la Torah, c'était comme Avraham Yitzhak Yaakov.
Et c'est vrai, et alors?
Et alors, bah donc, eux, ils vivaient la Torah complètement. Et
oui, c'est vrai, mais pas en tant que mitzvah. Or, ce qui se passe justement, c'est ça que dit la Torah pour Eloné Mamré. Il y a un certain Mamré qui a l'idée géniale de la circoncision, et puis paf, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu sais, on va en faire une mitzvah. D'accord? Et ça, l'histoire. Bon.
C'est un peu ce qui représente notre alliance à Gaché, elle a été donnée par Goyim.
Ouais.
Après, elle a pas
tué. Ouais, c'est ce que les kabbalistes appellent la rédemption des étincelles. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles de sainteté qui sont dispersées parmi les clipotes et que la Torah nous donne le moyen de les ramener. D'ailleurs, c'est la même chose pour les sacrifices. D'après le Rambam, les sacrifices, c'était parce que c'était la manière de rendre des cultes dans l'Antiquité. Et donc la Torah a dit « Arrêtez de faire ça pour les Avodah Zarah, vous allez faire ça pour moi. » Voilà. D'accord.
Hein? Aujourd'hui, les paroles, ça marche pas trop bien.
Non, non, on refait les korbanot. Bezrat Hashem, Inch'Allah. Amen.
Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans les cultes.
Nahon, c'est vrai. Et pourtant, nous continuons. Alors, il doit y avoir des raisons à ça. D'accord. Ça serait le sujet d'une étude profonde sur les korbanot. D'accord. Ouais. Bon, maintenant, je reviens ici à cette histoire. D'abord, qui sont les trois personnes qui sont apparues? Alors, Rashi nous dit, ce sont trois anges, n'est-ce pas? Bon. Le Rambam, dans son Moré Nevouchim, dans le Guide des Égarés, nous dit, n'est ni rien du tout, c'est une vision prophétique. Tout ce qui s'est passé là-bas, si j'avais été, moi, présent, lorsque Abraham reçoit les invités en question, j'aurais rien vu. Abraham était en train de faire un rêve prophétique. Et dans ce rêve prophétique, Dieu lui apparaît sous la forme de trois personnes. Comment Rambam lit le texte? Il lit comme ça. Vaïra elav Hashem beloné Mamré. Dieu lui apparut dans les plaines de Mamré. Ça veut donc dire qu'il dort, puisqu'il est en vision prophétique. Il est endormi. D'accord? Et qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Verset bête, Vayar, Vaïsa ena Vayar, Vineshlosha Anashim. Et il a vu dans son rêve trois personnes. Donc tout ça, c'est la vision prophétique. Il n'y avait rien de physique là-bas. D'accord? C'est ce que dit le Rambam. Oui.
En plus, ça colle bien avec le fait qu'on dit que c'est pas vraiment vrai quand on rêve.
Oui, oui, bien sûr. Ça correspond tout à fait à l'enseignement du Zohar, etc.
C'est contredit par la suite de l'histoire.
Ah. C'est quoi la suite de l'histoire?
Je sais pas, il donne à manger, etc.
Alors oui, il donne à manger en rêve. D'accord? On peut manger en rêve, non? Bon. Oui. On dit qu'il dort d'une. Oui. Hein? Oui, alors tout ça, il y a beaucoup de problèmes, d'accord? Mais une seconde. Le Ramban, bien avant toi, le Ramban a déjà réagi au texte du Rambam, il dit, c'est absolument illogique ce que dit le Rambam, parce que si c'est vrai, alors ça voudrait donc dire que les habitants de Sodome qui ont vu les deux anges étaient des prophètes, or ça, personne n'imagine que des méchants peuvent être prophètes. D'accord? Mais si c'était simplement une objection de ce genre, le Ramban aurait été calme. Or, ce que dit le Ramban là-bas, il dit, il est interdit de penser comme le Rambam. Bon. Il est interdit de penser comme le Rambam. Ça, c'est fort. Peut-il bien nous expliquer, mais pourquoi on n'a pas le droit de penser comme le Rambam? D'ailleurs, soit dit en passant, le Rambam, il s'en fiche pas mal qu'on dise ça de lui. D'accord? Il restera avec son opinion. Mais il y a quelque chose qui se cache. Si le Ramban est violent contre le Rambam, c'est un des passages les plus violents du Ramban, c'est qu'il y a quelque chose qui l'inquiète dans l'interprétation du Rambam. Petite question. Où vivait le Ramban? Où est-ce qu'il vivait, le Ramban? Où ça, en Europe?
En France, je
ne sais
pas.
Non.
En Espagne?
En Espagne. Où ça, en Espagne?
Madrid.
Non, Madrid n'était pas encore fondée à l'époque.
Sur la côte.
Il était de Gérone, c'est vrai, mais il habitait à Barcelone, la capitale du royaume d'Aragon à l'époque. D'accord? Qui c'est qui était la population de l'époque? Qui c'est qui régnait à Barcelone à l'époque? C'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Il y avait là-bas le roi Jacques II d'Aragon. Et le Ramban avait été convié à un débat public, une disputation avec les dominicains de l'époque, à Barcelone. Et du côté des dominicains, il y avait là-bas un juif converti au christianisme, qui s'appelait Fray Paul. Et toute la disputation, d'ailleurs, a été mise par écrit par le Ramban. Soit dit en passant, le Ramban a dit, en présence du roi, Parce que le converti dit à Ramban, comment vous avez des textes dans vos dans le Talmud comme quoi le Mashiach est déjà venu, donc Jésus c'était le Mashiach, etc. Le Ramban répond ce qu'il répond, peu importe pour l'instant. Mais il dit, à part ça, j'ai cru avoir lu dans les prophètes que lorsque viendra le Messie, il n'y aura plus de guerre et qu'on n'apprendra plus la guerre. Or, depuis que le christianisme s'est répandu dans le monde, il y a eu plus de sang versé qu'avant. Et se tournant vers le roi, il dit, ne serait-il pas difficile pour toi et tes chevaliers si vous n'appreniez plus la guerre? Alors les dominicains ont dit, silence, ces histoires, il insulte le roi. Et la séance a été fermée pour ce jour-là. Entre-temps, le roi fait appeler le Ramban en secret, lui dit, tu sais, il vaudrait mieux que tu te tires de là. Et c'est comme ça qu'il est parti en Eretz Israël. D'accord? Prenant la fuite, en vérité. C'est une fuite. Oui, c'est une fuite. Il y va aussi par idéal, mais il était bien obligé de partir parce que sinon ça allait aller mal pour lui. Bon, en tout cas, mais c'est pas ça mon propos maintenant. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que donc le Ramban est extrêmement sensible au discours à ne pas donner de l'eau au moulin des chrétiens. Maintenant, vous avez compris ça. Maintenant, nous allons lire le texte de la Torah comme le Rambam le dit. Dieu est apparu à Abraham sous forme de trois personnes.
Le Messie.
C'est la Trinité. Donc, le Ramban ne veut même pas dire pourquoi est-ce qu'il ne faut pas croire le Rambam. Parce qu'il a peur qu'un chrétien vienne et dise, vous voyez, vous avez un rabbin de chez vous qui admet la Trinité. Un Dieu qui apparaît sous la forme de trois personnes. Donc, le Ramban ne veut même pas le dire. D'accord? Maintenant, le Rambam, où est-ce qu'il habitait, lui?
Rambam,
oui. Il est né à Cordoue, c'est vrai, mais où est-ce qu'il habitait?
En
Égypte, au Caire, n'est-ce pas? Au Caire. Là-bas, c'était de quelle religion ils étaient là-bas? Des musulmans. Le problème du Rambam, ce sont les superstitions d'apparition de démons et des trucs comme ça, sous forme matérielle. L'animisme, tous ces trucs-là. Et donc, il va insister que cette vision est entièrement spirituelle. D'accord? Donc vous comprenez qu'il y a également ce qu'on appelle un arrière-plan culturel aux commentateurs dans les commentateurs. D'accord? Maintenant, le problème est de savoir qui a raison. Est-ce que c'est le Rambam ou le Ramban? Non, mais j'aimerais savoir qui a raison dans l'interprétation du texte.
Et comment il la voit, lui, le Ramban? Du coup, vous avez dit le Ramban.
Le Ramban, il dit que il y a eu Vaïra et Lavachem, Dieu lui est apparu, et après, il a vu trois anges qui ont pris une forme corporelle.
Comme Rachid.
Hein?
Je pense comme Rachid, le Ramban.
Comme Rachid, plus ou
moins. Le noir, il pense à Avot.
Hein? Oui, il y a encore d'autres interprétations. Je vous ai pas encore dit l'opinion du Ralbag. Oui?
Il s'appelle comment, ce livre?
Ça s'appelle La Disputation de Barcelone. Et en hébreu, Vikwar Haramban. Petite remarque, ça a été également publié par les chrétiens, en latin. Mais là-bas, c'est le Ramban qui est perdant.
Ouais. Ils ont changé le texte.
Oui, ils ont interprété à leur manière. Le Ramban ne savait pas quoi répondre, etc.
Ils ont pas changé les paroles, ils ont juste...
je sais pas exactement. Enfin, en tout cas, la version latine met le Ramban en mauvaise position. Ouais.
Il est en français?
Oui, c'est aux éditions Verdier. La Disputation de Barcelone, par Nachmanide. Ouais, aux éditions Verdier. Bon. Hein? Mais je reçois pas des pourcentages, oui?
Je veux dire, nous sommes toujours arrêtés tout petit, c'est qu'il y a eu trois ans. Donc, je pense que
ça, c'est Rachid.
Du coup, Rachid, si c'est Rachid, c'est écrit. C'est
non, mais oui, alors, et Rambam, c'est pas écrit? Hein? Alors, peut-être que c'est Rambam qui a tort, peut-être que c'est Ramban qui a tort. Maintenant, l'argument du Ramban, sur le plan formel, c'est que comment se fait-il que les habitants de Sodome ont pu voir des anges? Ça voudrait dire que pour le Rameux, c'était des prophètes. Or, un prophète ne veut pas être quelqu'un de méchant. Les habitants de Sodome étaient méchants. D'accord? Maintenant, est-ce que le Rambam n'a pas fait attention à ces versets-là? Je suis persuadé qu'il les a vus. Vous savez pourquoi? Le Rambam écrit lui-même qu'il a écrit un Sefer Torah. Donc, il a vu ce verset.
Alors, on aurait pu supposer qu'il s'est endormi pendant que le Chazan disait, mais si c'est lui qui l'a écrit, il peut pas ne pas faire attention. D'accord? Donc, comment comprendre ça? Regardez une petite seconde dans le chapitre Yud-Tet. Quand les anges vont sauver Lot, vous savez, ils vont sauver Lot. Ils sauvent Lot. Et Lot les reçoit, etc. Il le sauve. Bon. Regardez dans le verset Kafhe. Chapitre Yud-Tet au verset Kafhe. Au chapitre Yud-Tet au verset Kafhe. Ça traîne, ça traîne. Alors, bon. Vayahafor était Harim à elle, vet kol akikar, vet kol yoshvehe Harim, vet semach haadama. Il bouleversa ces villes-là, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Vatabet ishto meacharav. Et sa femme regarda en arrière. Vatehi netziv melach. Elle devint une colonne de sel. Vayashkem Avraham baboker, et Avraham se leva le matin. Ça veut dire que tout ça, oui, et si ça s'est passé au moment de l'aube, ça veut dire qu'Avraham a dormi pendant 18 heures d'affilée, puisque ça a commencé à midi. Et donc, ça veut dire que Avraham se réveille, et alors il voit la plaine détruite. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en bas se passe dans le rêve d'Avraham. Et regardez maintenant au verset Kaftet, dans le même chapitre toujours. Vaï Beshachet Elohim et Aré Akikar, et ce fut lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Vaïzkor Elohim et Avraham, que Dieu se souvint d'Avraham, Vaïshalach et Lot mitocha afecha, et qu'il renvoya Lot du sein du bouleversement. Tiens donc, j'ai toujours pensé que Lot avait été sauvé parce qu'il avait été sympathique avec les autres. Eh bien là, on dit non, c'est grâce à Avraham. Ça veut dire qu'en fait, tout se passe, y compris le débat d'Abraham pour sauver Sdom ou pas, etc. Tout ça, ça se passe dans un rêve. Donc, qui c'est qui a raison? Le Rambam. D'accord? Maintenant, pour tout vous dire, il y a eu une autre opinion. C'était celle du Ralbag. Le Ralbag. Rabbi Lévi Ben Gershom. Rabbi Lévi Ben Gershom, quand il a vu tout ce débat, Rashi, Rambam, tous ces machins-là, Ramban, il en a eu Ralbag. Et alors, il a expliqué autrement. Quoi qu'il y ait le problème. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Ralbag? Il dit, c'est révolutionnaire ce qu'il dit. Vous savez qui sont les trois hommes qu'Abraham a vus? C'était trois hommes. Qui étaient des prophètes envoyés chez Abraham pour lui annoncer la naissance d'Yitzhak et pour lui annoncer la destruction de Sodome. Et après, ils sont descendus détruire Sodome. C'était des prophètes. Ça correspond d'ailleurs à l'opinion du Ralbag, comme quoi il ne peut y avoir de miracle que s'il y a des prophètes. D'accord? C'est son opinion. Bon, c'est basé sur toute une théologie du Ralbag, mais qu'un miracle n'est possible que s'il y a un prophète dans le coin. Et donc, c'était trois prophètes qui sont venus, ils ont mangé chez Abraham. On les appelle après Malachim, des anges, parce que les prophètes aussi sont appelés anges parfois dans le Tanakh. Voilà. Donc, le Ralbag, ça bouleverse un peu tout. Oui.
C'est des prophètes goyim qui ont fait tout ça.
Oui. D'ailleurs, Avraham aussi était un goy, je crois. Oui. 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 Ah, qui sont les trois prophètes? La Torah ne le dit pas. Moi, j'ai mon opinion à ce propos. Mais ça, c'est encore autre chose. Je pense que c'était les trois amis de Yov, Bildad, Sophar et Eliphaz. D'accord. Mais pourquoi je pense ça comme ça? C'est encore un autre sujet. Oui.
Les deux
cours. Hein? Quoi?
Le Ralbag,
je sais pas. Je vous dis simplement que il y a ici tout. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît le plus, c'est-à-dire ce qui correspond plus à votre sensibilité. Maintenant, oui.
Si on voit comme le
Ralbag,
ça
veut
dire qu'aujourd'hui,
il peut pas y avoir de miracle. Pour le Ralbag, les miracles ne sont possibles qu'au temps des prophètes. Et donc, comment comprendre tous les miracles qui sont racontés dans la Gemara sur des Chachamim?
Oui.
Eh ben, il y croit pas. Il ne croit pas à ces histoires-là. Il dit, c'est pas possible, s'il n'était pas prophète, donc il n'y a pas eu de miracle. Oui?
La
Mais il n'y a pas des miracles qui ont bouleversé la nature. Il y a des miracles qui vont contre la nature, non. Il ne peut y avoir également providence, c'est autre chose. La providence, c'est pas forcément un miracle. D'accord? En tout cas, c'est ce que dit le Ralbag. Maintenant, je voudrais avec vous comprendre un petit verset. Il nous reste encore quelques minutes. Regardez dans le verset d'Alet. Nouveau dans le chapitre Yutret, au verset d'Alet. Yukarna me'at ma'im, que soit pris un peu d'eau. Verachatsu raglechem, lavez vos pieds. Veisha'anu tachat ha'etz, et installez-vous sous l'arbre. D'accord? Quoi? Sous l'arbre. À quoi tu penses?
Je pense à l'aide de Adam Arishon.
C'est pas impossible. On va voir ça tout de suite. Regardez Rashi. Sur, là, il écrit Tachat Ha'etz. Hein?
Ça
avait pensé à quoi? À quoi?
Louis IX.
Louis IX, oui, à Vincennes, oui. Oui. Bon, mais une seconde. Chacun pense à ce qu'il veut, hein. Bon, maintenant, regardez à Tachat Ha'etz. Que dit Rashi sur Tachat Ha'etz? Rashi dit un truc génial. Tachat Ha'ilan. Sous l'arbre. C'est-à-dire que Rashi avait peur qu'on ne comprenne pas le mot Ha'etz, donc il nous avait dit Ilan. Génial, non? À nouveau, le grand principe est que quand Rashi dit quelque chose de banal, c'est quelque chose de très profond. Le mot Ha'etz est un mot en hébreu. Le mot Ilan est un mot en araméen. Ilan veut dire un arbre en araméen. Ça n'est pas, mais c'est un mot qui est rentré dans l'hébreu moderne. Grâce à la Mishnah d'ailleurs. La Mishnah cite souvent le mot Ilan, Rosh Hashanah la Ilan par exemple. Mais c'est un mot araméen. Maintenant, quelle est la différence entre Ha'etz en hébreu et Ilan en araméen? Non, rien à voir. Non. J'ai l'intention de vous répondre, donc je ne vais pas vous laisser comme ça. Le mot Ha'etz en hébreu a deux significations possibles. Ça peut vouloir dire un arbre, et ça peut vouloir dire du bois.
Ça dire
du bois. Quelle est la différence entre le bois et un arbre? Hein? Le bois, c'est mort, et l'arbre, c'est vivant. Tandis que le mot Ilan en araméen ne signifie que arbre. Comment on dit du bois en araméen? En araméen, le bois se dit ara. Aleph Aïn, ara. D'accord? Donc, quand Rashi dit à Ilan, il dit attention, c'est sous un arbre vivant et pas sous du bois. Pourquoi est-ce que Rashi a-t-il jugé nécessaire de dire ça? Parce qu'il connaît la lecture chrétienne. Trois, une divinité sous forme de trois personnes sous du bois. Quel bois?
Toucher du bois.
Pourquoi toucher du bois? Pour la croix. C'est-à-dire, ce que dit Rashi, faites attention, si vous lisez comme les chrétiens, c'est du bois mort. C'est une divinité mourante ou morte. Tandis que si vous lisez la Torah comme les juifs, c'est un arbre de vie. C'est ce qu'on retrouve dans le Gan Eden. C'est-à-dire que ce que nous dit Rashi, essaie de comprendre donc que la Torah vient de l'arbre de vie du Gan Eden, tandis que l'autre version, elle vient d'un bois mort. D'accord? C'est ça. Donc Rashi, par ce mot-là, Tachat Ha'ilan, renverse la théologie chrétienne. Vous avez compris? Oui? Parce que la Torah veut qu'on comprenne que la vision d'Abraham l'introduit dans le Gan Eden. C'est pour ça que là-bas on prend du lait et de la viande. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en dehors de l'histoire, n'est-ce pas? Puisqu'on a vu qu'il était un des Avot. Et donc, quand on est en dehors de l'histoire, c'est qu'on est avant l'histoire. C'était le Gan Eden. Donc, Tachat Ha'etz. Oui.
Sur le verset Verachatur
Aglechem.
C'était la coutume de l'époque ou vous voulez vérifier quelque chose?
C'était la coutume de l'époque.
Vous ne pouvez pas vérifier.
Comment?
Vous ne pouvez pas vérifier les pieds de coq?
Les pieds de coq?
Voilà.
N'importe quoi, on n'est pas là-dedans, non? Allez, c'est allé. On n'est pas dans la démonologie.
L'histoire, on commence quand?
Avec quand Adam est sorti du Gan Eden.
Chaim Banim.